Roland Mornay a écrit un article pour présenter le drame du Sequana, paquebot coulé le 8 juin 1917 au large de Lieu, côté plage des Vieilles, en allant vers les Corbeaux, dans la revue Chasse-Marée numéro 339, actuellement en kiosque. Bonjour Roland.
Oui, bonjour Laurent.
Dans cet article, vous écrivez plutôt sur l'histoire, les caractéristiques du paquebot ou le torpillage et l'abandon du navire.
Tout cela, le navire, le Sequana, hein, qui c'était pas son premier nom, c'était le City of Corinth, c'est un bateau qui avait été construit en Irlande, hein, et qui avait été acheté par la France en 1912. C'est un paquebot mixte, c'est-à-dire il transportait marchandises et passagers, et il appartenait à la compagnie de Sud-Atlantique, qui était une filiale des chargeurs réunis, voilà, pour le bateau, là. Et ce paquebot avait appareillé de Dakar, c'était le 28 mai 1917, à destination de Bordeaux. Et il avait en tout 665 personnes à bord, 99 membres d'équipage, 166 passagers européens et 400 tirailleurs africains. On disait tirailleurs sénégalais, mais en fait, ils n'étaient pas sénégalais. C'était des Mossi, c'est une ethnie du centre de l'Afrique, de la Haute Volta, certainement. Voilà, ces tirailleurs allaient et montaient au front. Ils allaient défendre la mère patrie, à l'expression de l'époque. Voilà, la marchandise, c'était 5000 tonnes, un peu de tout. Hein, je ne vous détaille pas du blé, des haricots, du tabac, tout cela, mais il avait son plein à peu près son plein de marchandises, et les tirailleurs africains étaient logés sur le pont dans des tentes, hein, voilà, on était au mois de juin, mais c'était pas très agréable sans doute. Et alors là, ils étaient tout jeunes, ils ne parlaient pas français, hein, ils parlaient que Mossi, hein, il y avait un adjudant et un sergent et deux caporaux qui baragouinaient le français, et ils étaient sous la responsabilité d'un lieutenant européen dont j'ai jamais su le nom et qui ne s'est jamais finalement occupé d'eux. Alors, ce bateau qui allait sur Bordeaux, on lui a fait passer, c'était judicieux au départ, passer assez au large du Cap Finistère, c'est-à-dire de la pointe de l'Espagne, à 200 milles, hein, parce qu'il y avait des sous-marins allemands qui rôdaient, enfin, ils n'étaient pas très nombreux, donc c'était une sage décision. Par la suite, c'est moins compréhensible, hein, ce bateau, on lui fait faire une route nord, pratiquement plein nord, et il arrivait au nord, presque ouest, nord-ouest de l'île Dieu, à venir sur l'île Dieu ensuite, à toucher l'île Dieu, et de l'île Dieu faire une route directe sur l'estuaire de la Gironde. C'était des directives, alors justement, des directives du commandement, hein. Et là, c'est assez curieux, parce que ça allongeait tout d'abord considérablement la route, et puis la partie la plus dangereuse, c'était justement celle qui allait de l'île Dieu à l'estuaire de la Gironde. Il eût été plus judicieux, bien sûr, au départ, de faire passer au large, et ensuite route directe sur l'estuaire de la Gironde. Et là, il n'était pas escorté. Il y avait il devait l'être par une canonnière qui s'appelait l'Alerte, mais il n'y avait pas de point de rendez-vous fixé. Ce bateau est arrivé juste au petit jour, juste avant le jour, là, au large à quelques milles dans l'ouest de l'île Dieu. C'est curieux, il n'y a pas eu de contact avec le sémaphore. Le sémaphore, c'est un sauveur, où la veille, normalement, était permanente, à 24h sur 24.
Pourquoi il n'y a pas eu de contact? Est-ce qu'on le sait?
Mais on le sait parce que ce n'est pas sur les rapports, ce n'est pas indiqué. Et à ce moment, quand les sémaphoristes ont fait appeler l'administrateur du quartier, qui s'appelait Monsieur Bléjean, il ne savait pas de quel bateau il s'agissait. Pour moi, ils auraient pu identifier le bateau par Scott, hein, ils auraient pu, mais non, ils ne le savaient pas. Alors, quand le Sequana a pris la route, il est à 5000 au sud de l'île Dieu à peu près. C'était le point tournant, comme on appelle, a pris la route directe sur la Gironde. C'est là qu'il a été torpillé. Alors c'était extrêmement extrêmement violent. Hein, on saura après que c'était le sous-marin UB-72.
Un sous-marin allemand, pour être précis.
Oui, et puis ce même sous-marin, d'ailleurs, qui trouvera sa fin l'année suivante, le 12 mai 1918, il sera coulé par un sous-marin anglais dans la Manche. Enfin, voilà. La déflagration était tellement violente que finalement, ceux qui étaient à la machine ou tout autour ont été tués, noyés. Cinq personnes, si vous voulez. Et quand le télégraphiste, enfin, quand le radio a voulu envoyer un message, il ne pouvait pas, son poste était détruit. Et dans son écrit, il s'appelait Abel Barreau, dans son écrit à chaud, il écrit « Ma réparation était irréparable », ce qui est assez curieux.
Est-ce que Abel Barreau a été sauvé ?
Oui, le radio a été sauvé. Alors j'ai oublié de dire que le commandant du bateau, il s'appelait Prudenti. Prudenti, c'était un méridional, il était de la Ciotat.
Ernest Prudenti, pour être précis.
C'était Ernest Prudenti. C'était son premier commandement. Normalement, il assurait, lui, habituellement, il était second capitaine. Mais là, il assurait le commandement. Il retrouvera un commandement après que deux ans après. Mais on ne peut rien lui reprocher. Hein. Il y a eu des exercices d'abandon qui ont été faits sur la route. Avant, il a fait mettre les embarcations de sauvetage en dehors. Il a fait des essais d'embarquement pour voir si tout se passait bien. La seule chose, c'est que les tirailleurs africains ne participaient pas. Voilà, on les parquait dans un coin sur le pont. Hein, le truc, c'est voilà, fallait pas qu'ils paniquent, hein, qu'ils prennent les embarcations des Blancs. Eux ne participaient pas.
Il y a juste les passagers européens et l'équipage qui a participé à ces exercices.
C'est cela. Et quand il y a eu l'explosion, elle qui était terrible, le commandant s'est trouvé tout seul à la passerelle, avec le radio, parce que le timonier, tout ça, ils ont fui la passerelle. C'est un passager qui est venu, et le commandant a voulu lui faire prendre, faire route sur la terre, sur les lieux. Les lieux étaient à quelques milles, à moins de 6 milles dans le nord. Et là, le chef mécanicien a fait dire, il y a plein d'eau partout dans la machine, c'est plus possible. Alors, le bateau était abandonné, il fallait abandonner le bateau assez vite, bien sûr. Il a mis 25 minutes pour couler, hein, c'est pas très 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 long. Mais il y a une embarcation qui avait été détruite, hein, mais il en restait 7, des embarcations plus petites. On pouvait embarquer plus dans les embarcations, on pouvait embarquer 340 personnes environ. Et puis il y avait des radeaux. Des radeaux qui, et de plus, comme il y avait beaucoup de passagers avec les tirailleurs africains, il y avait des radeaux de fortune et aussi des paniers à courrier. Alors je ne sais pas à quoi correspondaient ces paniers à courrier. Et ce qui s'est passé, c'est que les hommes les hommes et puis les passagers, hein, il faut dire qu'il y avait une femme, je crois, et 32 enfants, ou l'inverse, mais ils n'ont pas attendu que les canaux soient remplis. Ça, alors qu'il faisait, hein, ces embarcations pouvaient supporter au moins 130 personnes en plus.
Ce que vous nous dites, il y aurait pu avoir plus de personnes qui auraient pu être sauvées.
Ah oui, absolument. Ils ont quitté, ils ont fait route aussitôt. Hein, ils ont pas resté à proximité quand le bateau était en train de couler. Ils ne sont pas restés là. Ce qu'il faut dire, j'allais l'oublier. Donc le radio a bien envoyé un message, mais sur portée réduite, avec son poste de secours. Et le SOS est bien parvenu, avec le nom du bateau, est bien parvenu à l'île-dieu, au poste. Maintenant, on appelle ça le fort. Les îles appellent ça le fort de la Sans-Fil. Laurent a dû entendre parler de cela. Là, c'est le fort neuf. C'est maintenant une propriété privée. C'est à quelques centaines de mètres dans l'est de l'île.
Juste pour arriver au Corbeau, c'est juste avant.
Oui, c'était des militaires qui tenaient ce poste-là. Ils ont bien reçu les appels du Sequana, mais les ordres, c'était s'il se passait quelque chose, eh bien, il fallait appeler Marine Brest, mais les secours ne pouvaient venir que tout près de l'île-Dieu. Marine Brest, dans la nuit, ils ont peut-être réveillé un vieil amiral, mais ça n'avançait à rien. Et l'administrateur de la marine, Alexandre Bléjean, lui a appris qu'il se passait quelque chose. C'est le sémaphore qui lui a fait transmettre, par télégramme. Mais il n'y avait pas de communication téléphonique. Il n'y avait pas de communication téléphonique, ni entre le sémaphore et les affaires maritimes, les inscriptions maritimes, ni avec le fort avec la sans-fil. C'était des militaires, il n'y avait aucun contact, ce qui est assez curieux. L'administrateur a simplement appris qu'il y avait une violente explosion proche dans le sud de l'île-Dieu, et ensuite il y avait une canonnade. Ça n'avait pas duré longtemps, parce qu'il y avait un canon, le Sequana avait un canon, et le sous-marin avait été aperçu, et on lui avait tiré plusieurs coups de canon, mais sans pouvoir l'atteindre. Et donc l'administrateur, lui, ne savait, personne ne savait quel était le bateau qui avait été torpillé. Enfin, on ne savait pas trop si c'était une mine. Et quand l'administrateur était averti ensuite qu'il y avait des embarcations qui se dirigeaient vers l'Anse des Vieilles. C'était au petit jour. Au petit jour, le temps était calme, pluvieux, couvert, mais c'était quand même du beau temps. Et ces embarcations, il y avait beaucoup de monde, mais elles n'étaient pas remplies. Il y avait 195 personnes à bord sur toutes ces embarcations, alors qu'on aurait pu mettre sans surcharge aucune, 140 de plus. Et ce qui s'est fait bien souvent, on surchargeait les embarcations de sauvetage, et là, cela pouvait se faire, puisqu'il faisait beau temps et que la terre était toute proche. Voilà, mais c'est à ce moment-là, on a su que c'était le Sequana. Alors,
par rapport aux passagers, il y a eu 9 péris.
Oui, en tout, il y a eu 9 au total. Alors, ce qui se passait...
Sur les passagers européens, on est bien d'accord.
Oui, ce qui se passait sur le Sequana qui est en train de couler, il y a quelques passagers qui sont restés. Le commandant, il est resté jusqu'à la fin, et il n'y a pas aucun reproche à lui faire. Mais deux passagers ont disparu, on suppose, en allant chercher de l'argent dans sa cabine. Et puis il y a un garçon aussi un garçon de cabine qui apparemment offrait à boire à tout le monde, mais il avait bu un coup, qui a disparu. Et puis une petite fille d'une embarcation qui est, sa mère l'a laissé tomber à l'eau le long du bord, ils n'ont pas pu la repêcher. C'est navrant. Donc au total, il y a 9 victimes entre passagers européens et équipage.
Et personne d'équipage, c'est les tirailleurs qui ont plus péri.
Les tirailleurs étaient à bord. Certainement, la plupart ne savaient pas nager. La plupart avant n'avaient certainement jamais vu la mer. Hein. Ils étaient complètement perdus. Les seuls qui ont essayé de... Alors, il y en a qui étaient... Ils étaient complètement tétanisés. Hein. Certains rentraient dans les cabines. Ils étaient recroquevillés dans un coin. Il y en a un qui essayait il faisait partie de l'équipage. Le seul, en les bousculant un petit peu, il a réussi à en faire évacuer dans les radeaux. C'était le médecin du bord. Il s'appelait Alexandre Désirat. Je le cite pour deux raisons. Tout d'abord, lui, il n'a pas demandé de décoration, parce qu'après, les officiers, tout le monde leur les demande de décoration, on en parlera. Tout le monde demandait une décoration, il n'y a jamais eu de décoration demandée pour lui. Et ce docteur, Alexandre Désirat, il trouvera sa fin, il mourra un peu plus de deux ans après. Il mourra dans le naufrage du paquebot Afrique, un peu au sud, ouais, le pauvre homme.
Et, oui, on peut dire qu'il avait la poisse, monsieur.
Oui. Non, lui, il a échappé à un naufrage. Il a eu une conduite, oui, qu'on peut dire, héroïque. Et deux ans et demi après, il a péri. Et alors, donc, c'est... Alors, certains... certains Africains se sont noyés le long du bord. Il y a ceux qui ont embarqué sur les radeaux, ils devaient paniquer. Il y a des radeaux qui ont chaviré ou qui ont coulé. Et puis, il y avait aussi, il faut le dire, les brassières de sauvetage. Je ne l'ai peut-être pas écrit, ça. À l'époque, c'était... parce qu'on leur avait demandé d'avoir toujours leur brassière de sauvetage sur eux, mais au bout de quelques temps, les brassières de sauvetage à l'époque, les brassières s'alourdissaient. C'est-à-dire, au bout d'un certain temps, ça les entraînait au fond. Une brassière de sauvetage, ça avait une efficacité momentanée, pour un certain temps, si l'on peut dire. Il y a eu une erreur, je pense, d'administrateur, parce qu'il a demandé simplement à deux patrouilleurs auxiliaires. Ces patrouilleurs auxiliaires, qui étaient la Plie et la Vieille. C'était des anciens chalutiers en bois achetés aux Espagnols, construits à Vigo, et qui avaient un canon de 47, mais qui assurait normalement la protection de la flottille sardinière. Et ce qu'il y avait ce jour-là, des débuts de juin, parce que c'était le 8 juin, c'était arrivé le 8 juin 1917, la pêcherie, la sardine, c'était à peu près à l'endroit où le Sequana a été coulé. Et tous ces bateaux étaient venus, alors ils devaient être dans le port de la Meule, peut-être d'autres dans le port, à Port-Joinville, et puis d'autres dans les mouillages, et on n'a pas fait appel à eux.
Pourquoi on n'a pas fait appel à ces bateaux ?
Mais justement, on peut se le demander, parce qu'eux ne risquent rien. Il y a bien eu des dindés qui ont été coulés pendant la guerre. Il y en a eu trois qui ont été coulés le même jour. Mais là, les Allemands n'auraient pas, moi je ne crois pas, n'auraient pas coulé les bateaux sauveteurs. Ça n'aurait... mais voilà, les sardiniers, ont été réquisitionnés, ont été sollicités simplement pour transborder les passagers, ceux qui avaient été sauvés, qui se trouvaient sur les deux bateaux, sur les patrouilleurs auxiliaires, qui avaient il y en a un qui avait qui avait 200 personnes sur le pont, l'autre presque autant, ils étaient prêts à chavirer. Mais ils ne pouvaient pas rentrer dans le port, c'était une grande marée, et c'est des bateaux de pêche qui ont fait la navette. Mais je pense que Bléjon aurait dû, lui, utiliser les sardiniers avant. Il aurait peut-être, je ne sais pas moi, sauvé 10, 50 ou peut-être plus tirailleurs africains. Ces tirailleurs, et donc au total il y a 207 victimes, donc 9 victimes européennes si vous voulez, et 198 tirailleurs africains.
Sur les 400 tirailleurs.
La moitié de l'effectif, parce qu'ils montaient au front, ils allaient défendre la mère patrie. Ce n'est pas écrit, mais il devait aller, parce que la destination du bateau c'était Bordeaux, il devait aller à ce qu'on appelait le camp du Cournot. Le camp du Cournot, c'est un camp où il y avait des baraquements qui avaient été établis pas très loin d'Arcachon, à la Teste. Le camp du Cournot qui était appelé le camp de la misère. Il y a eu beaucoup de... parce que tout simplement, surtout à la fin de la guerre, on a entassé des étrangers, des tirailleurs. Il y en avait deux fois plus que prévu dans les baraquements. Et on peut se demander, dans ces tirailleurs, combien ont survécu à la guerre, parce que déjà la moitié de l'effectif était perdu. Il y avait presque un an et demi avant la fin de la guerre. Il y avait beaucoup de morts par maladie et puis lors des combats. Et peut-être que certains ont été rapatriés par le paquebot Afrique et sont morts. Le paquebot Afrique, vous savez, ce paquebot Afrique qui rapatriait le 12 janvier 1920, qui rapatriait il y avait 192 tirailleurs à bord, il n'y a eu que 7 rescapés.
Roland Manet, est-ce que les rescapés ont été aidés par les habitants de l'Île-Dieu ?
Oui, c'est ça, ils ont. Mais les rescapés, alors, ils ont été, que soient les... Ils ont été, parce que certains n'avaient pas de vêtements, que ce soit les Européens, ils ont été soignés, certains au village de la Croix, et puis on les amenait, les hôtels, il y avait le bel hôtel des voyageurs, Il y a la photo de l'hôtel des voyageurs et puis l'hôtel, la photo du sémaphore. Mais c'est un Jean-Claude Dupuis de l'Île-Dieu là, qui m'a donné ces photos. Ça, je dis cela au passage. Oui, les habitants de l'Île-Dieu ont été très très corrects envers tous ces pauvres gens. Ce que je dois dire, c'est que il y a une stèle là, qui était établie pas très loin de l'Anse des Vieilles.
Tout à fait, une stèle en mémoire des naufragés et du naufrage du Sequana.
Oui, mais ce que je veux dire, il n'y a aucun, à l'Anse des Vieilles, il n'y a aucun Africain qui n'a pris pied à cet endroit. Il y avait les embarcations, en gros c'était pour les Blancs, les radeaux pour les Noirs. Maintenant ça choquerait et c'est choquant, mais à l'époque, dans le schéma social de l'époque, c'était considéré, entre guillemets, comme normal. Alors, je souligne aussi le fait que le lieutenant européen qui avait la charge de ces 400 recrues, mais j'ai jamais su son nom, il ne s'est pas occupé de... Ben lui, il est embarqué, j'allais dire, comme les autres dans les embarcations, il ne s'est pas occupé de ses troupes. Hein. Et dans la commission d'enquête, on passe assez vite, on dit, ben oui, il y a eu une disparité de perte, tout simplement, parce que ils ne savaient pas nager, ils étaient perdus, mais il aurait fallu s'occuper d'eux, quoi, de ces Africains.
Ernest Prudenti, le capitaine du Sequana, a survécu. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit après ce torpillage ?
Ah ben, lui, ce rapport est très très complet. Ce qu'il dit, lui, enfin, il parle beaucoup de lui. Hein. C'est pas un modeste. Hein, mais ce qu'il voulait, c'est la Légion d'honneur. Il a fait. Alors, il a des pieds et des mains d'ailleurs pour l'avoir. Il l'a eu deux ans après. Mais au point de vue, il a fait des essais de avant le torpillage. Il a donc fait des exercices d'abandon et tout cela, mais sans faire participer bien sûr les Africains. Mais autrement, il a débarqué, lui, il a sauté à la mer le dernier. Pour ça, il était correct. Et alors, Prudenti, hein, il a réembarqué, mais pour la petite histoire, comme second capitaine, hein, il a retrouvé un commandement que deux ans après, il a embarqué sur un bateau qui s'appelait l'Alésia. Et puis, il a fait naufrage de nouveau. Son bateau était torpillé au large de Ouessant. Vous voyez, à l'époque, hein, c'était... Donc, voilà pour lui. Il y a un passager qui lui s'appelait Beretti, qui dit beaucoup de bien de Prudenti. Prudenti dit beaucoup de bien de Beretti. Tout ça, c'était pour demander des décorations. Hein. Voilà. Ce sont les choses qui m'ont choqué. Les communications, on peut souligner, alors il y a les dysfonctionnements, c'est la route à la mort, si je peux me dire, parce que faire passer le Sequana, hein, de l'Île-Dieu à l'estuaire de la Gironde en longeant la côte, alors qu'il y a eu de nombreux bateaux avaient été torpillés, et souvent, de plus, ces bateaux torpillés étaient escortés, tandis que là, le Sequana n'avait pas d'escorte. Il y avait une escorte de prévu, mais sans point de rendez-vous. Hein. C'était et puis 48 heures avant, les plongeurs le savent, il y a eu le Saint-Éloi, un bateau de commerce qui avait été coulé, mais tout près de à moins de 2000 de l'endroit où le Sequana a été torpillé à son tour. Il y avait la veille aussi, ou deux jours avant, il y avait le Niagara qui avait à l'estuaire, pas très loin des Pertuis, au large de Chassiron, qui lui n'avait pas été torpillé. La torpille était passée, il y avait un dysfonctionnement de la torpille, elle était sortie de l'eau, elle était passée au ras du gouvernail. Donc on savait que cette route était éminemment dangereuse. Hein. C'est pour ça là, on a du mal à comprendre pourquoi on a fait passer... Ce bateau, on lui a fait faire cette route.
Roland Mornay, pour finir, parce que rapidement, il nous reste peu de temps, oui. Est-ce que dans votre article, on retrouve également des photos ?
Oui, il y a des photos. Il y a Alors, il y a les photos du sémaphore, de l'hôtel des voyageurs, il y a les photos du Sequana. Alors, il y a pas la photo de la sans-fil, important, du fort, je l'avais donné, tout cela. Il y a des photos aussi qui viennent du cahier de Paul-Émile Pageot. Hein. Ce sont des dessins, des dessins, même des tableaux. Ce que j'oubliais de dire pour l'équipage, l'équipage a un témoignage officiel de satisfaction pour son attitude et discipline et dévouée lors du torpillage de ce paquebot. En parlant de Sequana. Alors là, je ne sais pas si c'était mérité, hein, parce que l'équipe de Caire a abandonné la passerelle et par la suite, eh bien, ils ont abandonné le navire sans attendre que les embarcations soient complètes. Hein. On peut pas. Voilà. Je trouve que c'était pas mérité. Et quand je referme le dossier du Sequana, j'ai un malaise, si vous voulez, de savoir que cela s'est passé de la sorte. Ça aurait pu être évité, mais c'est ce que j'écris aussi dans le. Mon texte était beaucoup plus long, hein, parce que il était raccourci, hein, parce que je parle beaucoup, mais j'écris beaucoup, quoi. J'aime bien tout dire, hein, pour cette histoire. Il y a aussi une photo qui a été donnée par c'est le chasse-marée qui a trouvé cela, par la société de plongée, l'Ange. On voit le Sequana sur le fond, l'étrave du Sequana sur le fond.
Roland Monnet, le sous-marin ne visait pas le Sequana.
On s'est interrogé pour savoir s'ils étaient au courant, parce que quelquefois les Allemands étaient bien renseignés, hein, ils avaient des espions à terre, ils écoutaient. Mais là, non, parce que, et certains ont dit oui, parce qu'il y avait eu des échanges entre la canonnière qui devait escorter et puis le paquebot, mais c'était des échanges, c'était codé, hein, c'était en graphie, c'était codé. Donc on a dit non, et le sous-marin a fait surface tout près d'une embarcation et le commandant a demandé le nom du bateau. Donc il savait que simplement que c'était un bateau de commerce, et bien tous les bateaux ça ne pouvait être que des bateaux, enfin pour les Allemands c'était des bateaux ennemis, donc ils devaient être coulés. Le commandant du UB-72 ne savait pas que c'était le Sequana, quoi.
Roland Monnet, en vous écoutant parler, vous êtes passionné d'histoire.
J'ai commencé à naviguer à 14 ans, avec un patron de l'île Dieu, d'ailleurs, René Chauvet. Il s'appelait à la pêche au thon. Hein, et puis, voilà, j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé l'histoire, et puis je continue.
Merci pour cette page d'histoire. On peut vous lire le drame du Sequana dans le Chasse-Marée, numéro 339, actuellement en kiosque. Merci Roland Monnet, à très bientôt.
Oui, merci Laurent, à bientôt.